Mon histoire des femmes, par Michel Perrault, 13e épisode.
Depuis la nuit des temps, pèse sur les femmes un interdit de savoir, dont Michel Le Duff a montré les fondements dans Le sexe du savoir. Le savoir est contraire à la féminité. Être savante, c'est cesser d'être une femme. Sacré, le savoir est l'apanage de Dieu et de l'homme, son délégué sur terre. C'est pourquoi Ève a commis le suprême péché. Elle, femme, elle voulait savoir. Elle succomba à la tentation du diable, elle croqua la pomme et elle en fut punie. Les religions du livre, judaïsme, christianisme, islam, confient l'écriture et son interprétation aux hommes. La Bible, la Torah sont leur affaire. L'Église catholique réserve la théologie aux clercs qui ont le monopole du latin, langue du savoir et de la communication, langue du secret aussi. Choses savantes et sexuelles se disent en latin pour échapper aux faibles et aux ignorants. Souvenez-vous de la mère du poète François Villon. « Femme je suis, et rien ne sait, l'être ni le, au moutier voix dont je suis paroissienne, etc. » Et elle s'instruit en regardant les vitraux et les fresques du moutier, c'est-à-dire de l'église, dont elle est en effet la paroissienne. De ce point de vue, la réforme protestante est une rupture. En faisant de la lecture de la Bible un acte et une obligation de chaque individu, homme ou femme, elle contribua à développer l'instruction des filles. L'Europe protestante, du Nord et de l'Est, se couvrit d'écoles pour les deux sexes. Et on constate, même en France, une dissymétrie sexuelle de l'alphabétisation entre l'Est plus alphabétisé et l'Ouest, la Bretagne par exemple, qui l'est moins. L'instruction protestante des filles allait avoir des conséquences de longue durée sur la condition des femmes, leur accès au travail et à la profession, les rapports de sexe aussi, et jusque sur les formes du féminisme contemporain. Le féminisme anglo-saxon est un féminisme du savoir, très différent du féminisme de la maternité de l'Europe du Sud. On pourrait le voir à travers l'exemple des infirmières. Quand il s'est agi d'organiser la profession d'infirmière, les anglo-saxons ont insisté sur le savoir et en France, par exemple, on insistait au contraire sur le soin. Bien entendu, les choses changent avec le temps. D'une part parce que les femmes agissent. Au XVIIe siècle, par exemple, la marquise de Rambouillet fit de son fameux salon bleu un lieu de raffinement des mœurs et du langage, point d'appui des précieuses qui revendiquent l'écriture et le beau parler dont se moque le bourgeois gentilhomme de Molière. Je vis de bonne soupe et non de beau langage. D'autre part parce que l'Église de la contre-réforme, consciente de l'influence des femmes, investit dans leur éducation, multiplie les petites écoles et les ouvroirs des religieuses. Mais que de réserves ! Fénelon, dans son traité de l'éducation des filles de 1687, écrit pour Madame de Maintenon, déplore l'ignorance des filles, préconise leur formation, mais les invite à se méfier du savoir pour lequel, dit-il, elles devraient ressentir, je cite, une pudeur presque aussi délicate que celle qui inspire l'horreur du vice. Les philosophes des Lumières ne pensent pas très différemment, voyez Rousseau, ni les révolutionnaires, Condorcet et Le Pelletier de Saint-Fargeau, exceptés. Eh bien, excepté eux, les révolutionnaires ne prévoient rien pour les filles qui seront enseignées par leur mère au sein de la famille et surtout à filer. En 1801, Sylvain Maréchal, un homme d'extrême gauche, publie un projet de loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes, qui est peut-être un canular. On ne sait pas si c'était sérieux ou si c'était une plaisanterie, mais quand même, les 113 considérants et les 80 articles de ce projet de loi ramassent, tel un sottisier peut-être, toutes les objections opposées à l'instruction des filles. J'en cite quelques passages. On lit par exemple: considérant que l'intention de la bonne et sage nature a été que les femmes, exclusivement occupées des soins domestiques, s'honoreraient de tenir dans leurs mains, non pas un livre ou une plume, mais bien une quenouille ou un fuseau. Que les femmes qui se targuent de savoir lire et de bien écrire ne sont pas celles qui savent aimer le mieux. Qu'il y a scandale et discorde dans un ménage quand une femme en sait autant ou plus que son mari, etc., etc. Suivent les articles de la loi. Ça commence toujours par « la raison veut que ». La raison veut que les femmes ne mettent jamais le nez dans un livre, jamais la main à la plume. À l'homme, l'épée et la plume. À la femme, l'aiguille et le fuseau. À l'homme, la massue d'Hercule. À la femme, la quenouille d'Omphale. À l'homme, les productions du génie. À la femme, les sentiments du cœur. La raison veut que désormais, il soit permis aux courtisanes seulement d'être femmes de lettres, beaux esprits et virtuoses. Une femme poète est une petite monstruosité morale et littéraire, de même qu'une femme souverain est une monstruosité politique, etc., etc. Tout au cours du siècle, on réitère cette affirmation que l'instruction est à la fois contraire au rôle des femmes et contraire à leur nature. Féminité et savoir s'excluent. Donc, conclusion de tout cela, il faut éduquer les filles, mais ne pas les instruire. Il faut les former à leur rôle futur de femme, de ménagère ou de maîtresse de maison. Leur inculquer de bonnes habitudes, d'économie et d'hygiène. Les valeurs morales de pudeur, d'obéissance, de gentillesse, de renoncement, de sacrifice, qui sont les vertus féminines. Ce contenu commun à toutes varie évidemment selon les époques et les milieux, comme d'ailleurs les méthodes pour le leur inculquer. Dans les familles aristocratiques, il y a un grand rôle du préceptorat. Les filles apprennent d'ailleurs beaucoup plus de choses, l'équitation, les langues étrangères. Dans les familles bourgeoises, les filles suivent des cours et vont au XIXe siècle parfaire leur éducation en pension entre 15 et 18 ans. Elles y apprennent les arts d'agrément, arts de désagrément, disait Georges Sand, le dessin, le piano, hachiche des femmes, comme on a dit au XIXe, qui leur permettent de charmer les soirées musicales et mondaines. On voit au XIXe siècle se multiplier les pensions religieuses qui fondent la prospérité des congrégations féminines, ce catholicisme au féminin dont parle Claude Langlois, mais aussi des pensions laïques tenues par des femmes. Quant aux filles du peuple, elles aident leur mère et vont dans des ouvroirs de bonnes sœurs, comme on disait, où elles apprennent à lire, à compter, à prier et à coudre. Car la couture demeure l'obsession de ce grand siècle du linge. Famille et religion sont les piliers de cette éducation, presque exclusivement privée. L'État en France, je parle de la France, instruit les garçons, ses futurs cadres et ses futurs travailleurs, mais pas les filles, qu'ils laissent à leur mère et à l'Église. Lorsqu'en 1833, Guizot, qui était alors ministre de l'instruction publique et qui était protestant d'origine, fait voter une loi obligeant toute commune de plus de 5000 habitants à ouvrir une école primaire, il s'agit uniquement d'écoles de filles. Les choses ont changé. Partout, en Europe, à peu près au même moment. La scolarisation des filles s'est opérée dans le primaire dans les années 1880, dans le secondaire autour de 1900, et leur entrée massive à l'université s'est produite entre les deux guerres. Effet de la modernité, sans doute. Les hommes ont le désir d'avoir, comme ils disent, des compagnes intelligentes. Les États souhaitent des mères instruites pour la prime éducation des enfants. Le marché du travail a besoin de femmes qualifiées, notamment dans le secteur tertiaire des services, dans les postes. Il faut des dactylos, des secrétaires, la sténodactylo qui va devenir la figure de la femme qualifiée dans le tertiaire. Et puis en France, on jouait des facteurs politiques. La Troisième République triomphante voulait soustraire les filles à l'Église, d'où les lois Ferry de 1881 qui créaient l'école primaire gratuite, obligatoire et laïque pour les deux sexes, avec les mêmes programmes, mais dans des lieux séparés pour des raisons de réputation morale. Longtemps problématique, la mixité sera réalisée sans tellement de difficultés dans les années 1960-1970, c'est tout récent, et cela est un signe et aussi un facteur vers une égalité des sexes encore à venir. Mais les changements, quand même, se sont effectués lentement. Je voudrais vous lire un petit passage d'un discours d'un inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône en 1895. Et je crois que c'est un discours pour la distribution des prix. Voilà ce qu'il dit. La femme quitte la voie que Dieu lui a tracée quand elle affiche des prétentions à la science. La place de la femme n'est, à notre avis, ni à la faculté de médecine, ni à l'école de droit. Elle est avant tout dans la famille, au foyer domestique. Aussi voulons-nous que les jeunes filles qui sortent de nos établissements secondaires s'exercent et réussissent à la fois dans les travaux de l'esprit, dans les travaux manuels, et pour dire toute notre pensée, qu'elles soient capables de faire bonne figure dans un salon et de tailler un sarrau, de tromper la longueur de la soirée par une lecture à haute voix et de dresser un menu, de jouer une sonate de Mozart et de ravauder des bains, de causer littérature et de connaître les conditions auxquelles satisfait une bonne lessive, d'écrire avec élégance et de saler le pot. Eh bien, ça c'est un inspecteur d'académie de l'enseignement secondaire en 1895. Vous voyez que les choses changent lentement. Femmes, quel a été leur rôle dans tout ça? Nombre d'entre elles ont désiré le savoir comme on désire un amant. La figure d'Ève est d'une certaine manière emblématique. L'Église médiévale lui a d'ailleurs substitué la Vierge au livre tout de même. Par toutes sortes de canaux, on observe un immense effort d'autodidaxie féminine dans les couvents, les châteaux, les bibliothèques, savoir grappiller, dérobés parfois dans les marges des journaux, les romans empruntés au cabinet de lecture et lus avidement à l'ombre de la lampe et dans le calme de la chambre, cette école de la chambre dont parle Gabriel Suchon au XVIIe siècle. Et ceci dans toutes les classes sociales. Marguerite Audoux, bergère en Sologne au début du XXe siècle et premier prix Femina en 1906, ce n'est pas rien, raconte comment elle découvrit, dans le grenier de la ferme où elle était bergère, un Télémaque de Fénelon qui devint son compagnon. Les femmes de l'élite revendiquèrent très tôt le droit à l'instruction, de Gabrielle de Pisan à George Sand, on entend leur voix. Mais il leur fallait franchir les obstacles un à un. En 1861, par exemple, Julie Daubier conquiert son baccalauréat de haute lutte, et quelle lutte ! Il fallut l'intervention de l'impératrice Eugénie pour qu'elle ait le droit de se présenter à Lyon à l'examen du baccalauréat. Et chaque entrée dans un nouveau niveau de savoir, un nouveau type d'études, fut une bataille. Les femmes, d'ailleurs, pour cela, se méfiaient des savoirs qu'on concédait aux femmes. Elles redoutaient leur dévalorisation. C'est pourquoi les féministes de la Belle Époque revendiquaient la coéducation des sexes, c'est-à-dire une mixité des programmes et même des espaces. Cela seul, pensaient-elles, leur garantissait une certaine égalité. Condition nécessaire de l'égalité. La mixité n'est pas cependant une condition suffisante. Aujourd'hui en France, mixité et égalité scolaire sont à peu près réalisées. Mais le chemin est encore long pour l'égalité professionnelle et sociale. Mais ceci est une autre histoire dont nous parlerons la semaine prochaine.
Histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierrette Perronneau.